Écoute le calme au dehors, écoute la guerre au dedans qui s'éloigne. Au calme sous les arbres, tu regardes ta bataille avec les yeux de l'enfant qui joue à la guerre. Et tu te dis, comme elle est loin ma guerre, comme ils sont prêts les arbres, ouverts et respirants, bruissant dans le vent chaud. Comme une caresse. Pourquoi une femme, une mère, reste sa vie entière auprès d'un homme alcoolique qui ne l'aime pas? Profondément, je crois que cette femme n'aime plus ni ne respecte plus le vivant, ce qui l'entoure, ni les plantes, ni les bêtes, ni elle-même. Elle n'a plus foi en la vie. Sa foi, elle l'a placée en l'homme, devenu tout-puissant. À cause de ça, tout va mal. Tout va mal, dans le sens où cette mère peut et doit retrouver sa souveraineté. Elle doit pouvoir se relever, en redonnant sa foi au vivant. Magique, touchant, nourrissant. Et ne plus placer sa foi uniquement en l'homme, devenu son gourou. Son Dieu unique. C'est à cause de ça qu'elle a mal et qu'elle continue à distiller du poison. Le poison de la haine et du non-amour. Elle n'a plus foi en la vie. Elle n'est plus qu'une marionnette en proie à ses émotions négatives. En proie à la peur. Alors qu'il lui suffirait de redonner un peu d'attention au vivant, qui bat encore et toujours au-dedans et à l'extérieur d'elle. Certains hommes s'étonnent de cette aliénation qui pourtant existe aujourd'hui, dans beaucoup de femmes. Beaucoup d'entre eux subissent aussi cette aliénation, car le féminin est aussi en eux.
Thank you.
à propos des vidéos sur l'alchimie de Patrick Burensteinas. Peut-être que je me trompe. En alchimie, la femme, c'est le mercure. C'est l'esprit. Dans la Bible, il y a l'épisode où Babylone brûle. Une femme s'est retournée. Elle a vu le feu du ciel. Pour ça, elle a été scellée, transformée en statue de sel. Pour moi, cet épisode veut dire que l'expression même de son essence féminine ne peut plus à ce jour s'exprimer. Dans l'équation du paradigme à venir. Cette équation qui est l'expression de la pensée capitaliste assoiffée dans laquelle nous survivons laborieusement depuis des siècles. Maintenant, l'homme a soif. Comme le chien gris de l'antimoine peint sur un vitrail d'une église à Paris. Il a soif de sang. L'homme a soif d'or et de sang. Peut-être parce qu'il sent que dans l'or, il y a un secret, une clé. Peut-être que dans l'or, ce métal plus pur, il y a la clé de ce paradigme irrésolu. Cette clé que je cherche obstinément. Peut-être que cette obstination à comprendre comment fabriquer de l'or révèle que l'alchimie secrète de ce métal apprivoise la lumière. Or et lumière sont comme les meilleurs amis du monde. Ceci va au-delà de la pensée capitaliste, de l'homme actuel. Mais certains hommes se sont dit « Là est caché quelque chose, il me faut aller. » L'or pour l'homme qui veut voir, l'homme qui veut sentir, qui veut comprendre. L'or est comme un trait d'union vers le ciel, qu'il ne sait plus, mais qu'il voudrait retrouver, même inconsciemment. L'or lui inspire simplement la résolution alchimique qu'il doit réaliser à l'intérieur de lui-même. Dans la vidéo sur l'alchimie, le massacre des innocents semble avoir une importance capitale dans la transformation de l'antimoine en or. Peut-être parce que cet accident est le début de cette nuit, de cette chute, de ce paradigme actuel dans lequel nous nous débattons depuis des siècles. Comme si, avec et depuis ce massacre, l'être humain vivait dans la nuit, sans cesse harcelé par ses passions, aveugle, sourd et muet, paralysé par la peur. C'est comme si avant ce massacre, le sacrifice humain avait un tout autre sens. Et que ce sacrifice-là, le sacrifice de ses enfants, le massacre des innocents, avait précipité l'homme sur lui-même, l'obligeant à se traduire, à s'expérimenter, se révéler individuellement, l'obligeant à concevoir l'horreur qu'engendrent ses passions. Dans ce trait d'union vers le ciel que l'or inspire, il y a vraiment quelque chose à accomplir à l'intérieur de soi. Cet accomplissement, certains alchimistes le voient dans la pierre philosophale qui naît à l'intérieur de l'antimoine qui a été fondu sur un feu de bois, avec l'aide du sel de rosée. Et c'est comme si le sel aidait l'antimoine à libérer son soufre. Alors peut-être la pierre apparaîtra, peut-être libre de naître, libre d'exister enfin. C'est un tout petit cristal pourpre, une fleur minérale. comme l'antimoine, peut-être que si nous libérons notre soufre ou nos peurs obsolètes, alors la pierre ou la fleur viendra naître dans notre esprit. Depuis des siècles, l'être humain cherche à transformer ses peurs. Parce qu'il a peur de manquer, il a cherché à transformer l'antimoine en or. L'or est encore matière qui est encore enfermée. Si l'être humain abandonne ses peurs, il se réaccorde avec lui-même et avec l'univers, qui est le monde vivant. Car il n'a alors plus d'attente, il réalise alors seulement que le présent lui fait cadeau de sa présence à travers ce corps, son corps et à travers le monde. Il réalise alors ses vrais besoins qui peuvent s'accomplir dans ce monde ou dans l'autre.
Je ne crois plus qu'en un petit brin d'herbe oublié sur la voie ferrée. Je ne crois plus qu'en un petit brin d'herbe ressuscité au milieu des pavés. Toi, tu l'arraches avec tes bulldozers, roi de l'or, esclave de l'or. Toi, tu l'enterres avec tes quatre hivers, fils de la mort et père de la mort. Moi, je te hais depuis le fond des âges, mais quand même dans mon désespoir, je t'aimerai toujours bien davantage que toi tu n'aimes sous ton parasol noir. Je ne crois plus qu'en un petit brin d'herbe oublié.
De retour dans la salle d'attente de l'assistante sociale, je crois deviner qu'elle va sûrement me dire, l'air très très décidé. Madame, vous savez que l'État réduit considérablement les budgets en ce qui concerne les aides sociales. Ce à quoi je répondrai sans sourciller. Il faudrait qu'il pense à rouvrir les camps d'extermination. Parce que si vous m'enlevez les aides, vous allez me retrouver demain devant l'église à faire la manche. Après quoi, dans le contexte actuel, elle redeviendrait beaucoup plus gentille. Je me considère associable. Peut-être que la sociabilité, comme la dépression, est considérée par les autres comme une maladie. Mais cette maladie, pour moi, est le résultat de ce que ce système politique, qui est le capitalisme comme religion, le résultat de ce que ce système provoque en moi. Laurent Freeman parle de la loi du libre arbitre et dans Stop Mensonge. Une émission qui s'appelle Stop Mensonge sur YouTube. Alors la loi du libre arbitre commence par le fait d'accepter que nous sommes un. C'est-à-dire qu'on peut se reconnaître ou trouver une résonance dans tout être humain, toute fleur, tout caillou, tout animal. Car tout ce qui est vivant a une âme et peut entrer en résonance avec ce que nous sommes, car nous sommes un et unis à l'un. De ce fait, nous devons accepter le choix de nos parents et de tout autre, dans le sens où ce choix leur appartient, et que je n'ai pas besoin de cultiver de ressentiment à cause de ce qu'ils ont choisi. Par exemple, si je me suis sentie trahie ou abandonnée ou rejetée, je ne dois pas en vouloir à l'autre parce qu'il a fait un choix dans lequel je me suis sentie trahie, rejetée ou abandonnée. C'est la loi du libre arbitre. Et si j'arrive à ne plus cultiver de ressentiment, alors il m'arrivera beaucoup moins de problèmes dans ma vie. peux vous lire encore un passage du livre Le Secret, écrit par Rhonda Byrne. Alors, Lee Browner, formateur et expert en gestion de fortune, auteur et professeur, a écrit « Je crois qu'il arrive à tout le monde de dire parfois « Les choses ne tournent pas rond » ou « Les choses vont mal ». Un jour, alors que ma famille vivait des moments difficiles, j'ai trouvé un caillou et je me suis assis, le tenant dans ma main. Je l'ai ensuite enfoui dans ma poche et j'ai dit « Chaque fois que je toucherai ce caillou, je penserai à une chose pour laquelle je suis reconnaissant. Donc, chaque matin, lorsque je me lève, je prends le caillou qui se trouve sur ma commode, je le mets dans ma poche et je passe en revue ce pourquoi j'éprouve de la gratitude. Le soir, que fais-je ? Je vide mes poches et le caillou est encore là. J'ai eu quelques expériences étonnantes grâce à cette idée. Un jour, un Sud-Africain m'a vu laisser tomber par mégarde mon caillou. Et il m'a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Je lui ai expliqué. Et il a baptisé mon caillou « Pierre de gratitude ». 2 semaines plus tard, j'ai reçu un courriel de sa part, en provenance d'Afrique du Sud. Il me disait « Mon fils est atteint d'une maladie rare et il est mourant. Il a un type d'hépatite. Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer 3 pierres de gratitude ?» Je n'avais que des cailloux ordinaires que j'avais trouvés au bord de la route, mais je lui ai quand même répondu « Bien sûr !» Je devais m'assurer que les cailloux seraient très spéciaux. Je suis donc allée à la rivière, où j'ai trouvé les pierres idéales. Et je les lui ai envoyées. 4 ou 5 mois plus tard, j'ai reçu un autre courriel. Il me disait « Mon fils se porte mieux. Il va très bien. » Et il ajoutait « Mais vous devez savoir quelque chose. Nous avons vendu plus 1 000 000 de cailloux à 10 dollars pièce, à titre de pierre de gratitude. Et les fonds ont été versés à des œuvres de bienfaisance. Merci beaucoup. » Donc, il est très important d'adopter une attitude de gratitude. À propos du système capitaliste et des hommes qui coupent les arbres, j'ai écrit. Je suis allée sur le plateau d'en haut, me promener avec les arbres. J'ai traversé l'empire d'un vieux fermier malade. J'ai d'abord longé la lisière des arbres. Je cherchais un gros chêne. Je sentais sa présence un peu plus haut. À la place de l'arbre, tout à fait à sa place, il y a un trou. Je me suis alors demandé quelle indispensable obligation majeure pouvait justifier cet assassinat. Peut-être a-t-il fallu qu'il paye des études agricoles à sa fille, devenue chevrière d'un autre empire. Un arbre, si immensément grand, si majestueux soit-il, ne fera jamais le poids face aux absolues nécessités de cette époque, murée dans son système capitaliste. Ce système est une religion absolument hermétique que l'on ne peut en aucun cas remettre en cause. Une remise en question est absolument taboue par le corps entier de cette humanité déchéante, coupée de toute sensibilité, complètement et définitivement zombifiée. Je m'en suis voulu de comprendre d'où venait la maladie du fermier. qui avait commis ce crime, qui n'était pas le seul, comme pouvait en témoigner le pauvre tas de poutres énormes, sous une tôle oubliée dans un champ un peu plus loin. Et la roue énorme d'une scierie qui finit de rouiller. Toute cette énergie dépensée en souffrance inutile, quelle tristesse! Si cet arbre était encore en vie. Mais avoir cette idée-là, c'est être un hors-la-loi, un fou, pire, un anticapitaliste, un mécréant. En continuant mon chemin, j'ai essayé de me laver de mes vieilles culpabilités, d'encore préférer les arbres aux hommes. Me laver de mes vieilles histoires, de mes anciennes vies en enfer avec les anges, à l'époque où je vivais dans un placard, chez mon ami, l'ange alcoolique. Moi aussi, j'ai connu la douleur d'être errante, perdue, au point de ne plus me rendre compte du mal que je pouvais faire autour de moi. Ces hommes qui tuent des arbres sont aussi errants que moi à l'époque. Eux errent, vieux, seuls, malades, dans une immense demeure labyrinthique, sans issue possible, car même la mort ne pourra, je le sais, les délivrer de leur prison immense, qu'ils ont passé une vie à construire avec le sang des arbres. Même la mort ne pourra pas les aider à trouver ce bonheur tellement grand et si simple qu'on peut éprouver sous un arbre. La lune et l'homme robot. J'imagine une pile d'épaves, de voitures, de camions et de cigarettes qui montent vers la lune. L'homme robot s'agrippant maladroitement, faisant tanguer l'édifice. Il s'acharne à vouloir grimper plus haut encore. Ses yeux rivés vers la lune, elle, l'astre en vacances, tombant, tournant, morte peut-être, ou inconsciente. Le soleil éclaire sa face toujours jeune, toujours belle. Pendant qu'elle dort, son cycle régulier allume nos nuits. Les parents du plus beau bijou, tantôt croissant, tantôt ronde. Parce que toi, lune, la belle endormie depuis toujours en vacances, tu viens mener la danse.